8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, gros plan sur le tabou des règles comme frein à la réussite scolaire des filles. Selon l'ONG Plan International, près de 500 millions de filles et de femmes dans le monde n'ont pas accès pendant leurs règles à des toilettes, à des protections hygiéniques de qualité. Et les élèves manquent en moyenne 5 jours d'école par mois à chaque cycle menstruel dans les pays en développement. Les premières règles exposent également les élèves à des risques accrus de mariage forcé et donc de déscolarisation. Alors comment briser d'une part le tabou des règles, améliorer la gestion scolaire, mettre en place aussi des politiques adaptées pour réduire l'absentéisme scolaire dû aux règles et puis promouvoir une éducation équitable pour toutes les filles. Et quant à vous les voisines, vos points de vue, vos témoignages nous intéressent, surtout si vous êtes maman, responsable scolaire. Cette émission n'est pas une émission sur la gynécologie, mais sur les règles comme question de société, y compris à l'école. N'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous surtout dès maintenant pour témoigner. 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Lucie de Chiffre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des programmes au sein de l'ONG Plan International. Et puis, dans quelques minutes, nous serons en ligne aussi avec Amandine Diao, qui est fondatrice et présidente de l'association Goutte Rouge à Abidjan, une association qui lutte contre la précarité menstruelle, qui brise les tabous des règles, avec notamment des ateliers de sensibilisation, de discussion entre jeunes. Et puis en fin d'émission, un parent, une question, comme chaque semaine, avec les conseils du psychologue Ibrahima Giroud, qui est professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, et il répondra à une question d'un papa inquiet. Mais tout de suite, ça sera l'actualité de l'éducation en Corée du Sud.
8 milliards de voisins.
La planète se parle.
8 milliards de voisines et de voisins.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Séoul. Bonjour Camille Ruiz.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Dans ce pays d'Asie le plus connecté de la planète, eh bien, certains professeurs sont désormais accompagnés d'un drôle d'assistant qui s'appelle l'intelligence artificielle.
Oui, l'intelligence artificielle a été introduite donc à la rentrée dernière. Ici en Corée, c'était en mars, dans certaines écoles primaires, des collèges et des lycées, sous forme expérimentale. Alors au début, elle devait être obligatoire, c'était une volonté du gouvernement. Mais comme l'opposition a amendé le texte, ce sont les chefs d'établissement qui décident maintenant. L'intelligence artificielle se présente sous forme de manuel, mais digitale. Donc les élèves ont des tablettes en mathématiques, en informatique et aussi en anglais. Et donc concrètement, ils peuvent converser, discuter avec l'intelligence artificielle qui corrige leurs fautes ou leur accent, par exemple en langue. Actuellement, c'est environ 30% des collèges et des écoles primaires qui testent ce modèle. Et en fait, le plan, c'est d'intégrer petit à petit l'intelligence artificielle dans toutes les matières d'ici 2027. Aussi bien en sociologie, mais aussi en coréen ou en histoire, par exemple, sauf en musique, en art et en sport.
Est-ce que ça soulève, Camille Ruiz, des débats où l'utilisation de l'IA fait plutôt consensus ?
Alors oui, bien sûr, il y a des débats. Les personnes qui sont plutôt pour disent que ça permet un apprentissage sur mesure, adapté au niveau de l'élève, qui fait travailler les points faibles, renforcer les points forts. Et puis les professeurs peuvent voir le suivi en temps réel. Les parents ont aussi accès aux données de leurs enfants, les données que calcule l'intelligence artificielle en classe. Et ça peut leur donner un autre aperçu de leur apprentissage. Mais il y a un sondage qui a été fait. Beaucoup d'instituteurs en fait, disent qu'ils n'ont pas été assez formés à utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, du côté pratique, pour l'instant, la Corée du Sud manque de personnel qualifié pour, par exemple, réparer ou réaliser la maintenance des appareils électroniques. Par exemple, dans la ville de Daejeon, au centre-ouest de la Corée du Sud, si on fait un ratio, il y a un technicien disponible pour plus de 38 000 machines. Donc, il y a des professeurs qui s'improvisent informaticiens. Non, c'est pas beaucoup et c'est pas l'idéal. Et puis, évidemment, il y a des craintes que ça augmente la dépendance des enfants aux écrans. Certains pensent que le recours quotidien à l'intelligence artificielle peut aussi altérer leur capacité de lecture et d'écriture. Et comme l'intelligence artificielle n'a pas cette sensibilité humaine ni ces émotions, on peut aussi s'interroger sur cette façon d'apprendre hein, qui paraît un peu plus proche de la performance que de la réflexion par soi-même. La Corée du Sud, c'est déjà un pays très connu pour sa compétitivité. Par exemple, en 2023, l'étude internationale PISA de l'OCDE qui mesure et classe les résultats des élèves montre que la Corée du Sud est troisième en lecture, cinquième en sens. Ce sont des très bonnes notes. Et voilà, les enfants sont en concurrence dès leur plus jeune âge, même sans intelligence artificielle.
Ouais, et avec l'IA, effectivement, ils vont répéter inlassablement, corriger leurs fautes et travailler encore plus. Merci Camille Ruiz, correspondante pour RFI en Corée du Sud. À suivre, le tabou des règles, comment limiter l'absentéisme des filles à l'école chaque mois. Vos témoignages, vos points de vue nous intéressent. 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après le rappeur sud-coréen Menomeko. Baby, don't I like a bullo? Baby, don't I like a bullo? Oh, 그녀에게 전해줘 되도록 따뜻한 노래로. Yeah, 우린 다음 장을 넘기고 색을 얹었다면 like indigo. 시끄럽기만 한 도시의 밀밀로 그 속말을 전해 come with me, girl. Yeah, I be riding in the city. Make a call, make a call, make a see your goddy body. 어디 볼까? Get your number. Just talk to me, 꽃이 폈나? 어디 볼까? Don't look so far. 넌 내 맘 말랑가 몰라. 어디서 볼까? Get your number. Just talk to me, 꽃이 폈나? 어디 볼까? Don't look so far. 넌 내 맘 말랑가 몰라. Baby, don't act like a bullo. Hey. 너만 몰랐어, bullo. Gobble the cookbook. Yeah. Baby, don't act like a bullo. No, my more like your bullo. Yeah. Panorico at the G. Big it with collaboration. It's the dance I'm more to gear. Man, I'm sad I'm a We do money party. You go by perfect body. Check me some gun money. Oh, you know money is a From my heart to be nation, they damn sa. Hey, hater, they got it back, they damn sa. Oh, yeah. My own malicha. Oh, yeah. My own malicha. Baby, don't act like a bullo. Hey. No, my mulasso bullo. Hey. Take a grab with a coco. Baby, don't act like a bullo. No, my more like your bullo. Yeah. 가만히 눈을 감아 널 향한 마음을 담아 넌적이 넓은 바다 난 어떡하리요 가만히 눈을 감아 널 향한 마음을 담아 넌적이 넓은 바다 난 어떡하리요 Baby, don't act like a bullo. Hey. 너만 몰랐어, bullo. Gobble the popo. Yeah. Baby, don't act like a bullo. No, my more like your bullo. Vous écoutez RFI, vous avez raison, super programme musical et aussi des sujets qui nous touchent toutes et tous, les règles, le tabou des règles et surtout son incidence sur l'absentéisme scolaire des filles dans pas mal de pays. On en discute en cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Avec vous, Lucie Duchiffre, vous êtes directrice des programmes de l'ONG Plan International, une ONG qui est particulièrement investi sur les filles hein, et l'égalité de genre. Et Amandine Yao, qui est fondatrice et présidente de l'association Goutte Rouge à Abidjan. Merci d'être en ligne avec nous, Amandine Yao.
Merci. Et bonjour à tout le monde.
Votre association lutte contre la précarité menstruelle et brise les tabous des règles avec notamment des ateliers de sensibilisation. Je voudrais déjà qu'on fasse un état des lieux. Je vous lis le message d'Ornella à Douala, Lucie Dechèvre. J'ai été scolarisée dans un collège et une université privée où j'étudie actuellement. Et moi, je n'ai jamais eu de problème pour avoir accès à l'eau, à des serviettes hygiéniques. Ça me semble étrange de savoir que ça n'est pas le cas partout. Voilà, on a une auditrice sur le continent africain qui n'a pas été confrontée à ce problème-là. C'est peut-être rassurant, mais effectivement, ça ne témoigne pas de la réalité à l'heure actuelle dans le monde, Lucie de Chiffre.
Oui, en effet, aujourd'hui, on considère que 2 adolescentes et femmes sur 5 ne vont pas à l'école ou au travail pendant la période de leurs règles. Donc, c'est un problème qui est généralisé et qui peut être accentué dans certains contextes. Par exemple, c'est une femme sur 2 ou une adolescente sur 2 au Bangladesh et 2 sur 3 au Népal, pour différentes raisons. Donc, il y a un vrai lien entre absentéisme scolaire et accès à la santé menstruelle.
Quelle est la situation en Côte d'Ivoire, Amandine Yao ?
Peut-être pour renchérir, le gap en fait se trouve au niveau des écoles publiques et privées. On peut le voir qu'au niveau des écoles privées, les règles sont plutôt bien vécues par les filles parce qu'il y a des toilettes propres, parce qu'il y a un accès à l'eau, parce qu'il y a une infirmerie où il y a des médicaments et très souvent des protections. Mais dans les établissements publics, c'est tout le contraire. Très souvent même, il n'y a même pas de toilettes. Et c'est pourquoi, en fait, il y a ce grand gap. On peut voir que les filles qui sont dans les écoles privées ont des témoignages plutôt rassurants, alors que celles qui sont dans les écoles publiques ont des témoignages plutôt glaçants où elles ne peuvent pas vivre leur menstruation en étant à l'école.
Alors justement, les causes réelles, Lucie de Chiffre, de l'absentéisme des filles pendant leurs règles, c'est d'abord les toilettes, l'accès à l'eau.
Oui, c'est une cause considérable. On estime que un tiers des écoles dans le monde ne disposent pas de services d'hygiène de base. Donc effectivement, l'accès à l'eau et à des toilettes, notamment des toilettes non mixtes dans certains contextes, est vraiment un frein à la scolarisation des filles.
Vous citiez un pays comme le Bangladesh, par exemple, où une élève sur 2 ne va pas du tout à l'école pendant ses règles. Ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de toilettes. Elle sait que toute la journée, elle ne pourra pas aller aux toilettes.
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, il y a effectivement l'absence d'infrastructures sanitaires. Il y a aussi le manque d'accès à des protections menstruelles. Donc, ça concerne 500 millions de femmes et de filles dans le monde et 4 millions en France. Donc, c'est aussi considérable dans notre pays. Et effectivement, il y a peu d'écoles qui fournissent des protections menstruelles. Une école sur 8, c'est ce qu'on estime en Afrique subsaharienne, qu'elle soit gratuite ou payante d'ailleurs. Donc effectivement, il y a aussi la question de l'accès à des protections. L'autre aspect, c'est la question du tabou des règles, puisque dans de nombreux pays, les filles sont sujettes à des moqueries. On a par exemple des témoignages, y compris en France, où un tiers des filles disent avoir déjà subi des moqueries pendant qu'elles ont leurs règles à l'école. Il y a aussi la question de la honte. Les règles peuvent aussi générer une honte liée aussi à ces moqueries. Et dans certains pays, il y a même carrément une ostracisation des filles. C'est le cas par exemple au Népal, où il y a une pratique traditionnelle qui veut que pendant les règles, les filles et les femmes ne doivent pas être en contact avec le reste des communautés. Ça a été banni par la Cour suprême, bien heureusement, en 2005, mais la pratique subsiste. Donc il y a un vrai problème d'ostracisation.
Amandine Yao, là sur l'ostracisation pendant la période des règles, enfin le rejet, l'exclusion, c'est un phénomène qu'on retrouve dans certaines communautés aussi sur le continent africain, où une femme qui a ses règles est impure et donc elle va passer quelques jours dans une autre maison, voire dans une cabane. C'est quelque chose qui existe encore.
Oui, c'est quelque chose qui existe et même dans nos contextes ici, une femme qui a ses règles ne doit pas le faire voir, ne doit pas le montrer. C'est pourquoi même il y a certaines filles qui n'ont peut-être pas de douleur, mais qui décident de rester à la maison et de ne pas aller à l'école parce qu'il ne faut pas que ça se voit. Ça doit rester dans le jardin secret. Personne ne doit savoir que tu as tes règles. Sinon, comme elle le disait, tu vas recevoir des moqueries au niveau de tes camarades, tu vas recevoir du rejet tout simplement parce que tu es considérée comme sale et impure. Donc juste ça, dans la conscience des filles, fait qu'elles ne veulent même pas se montrer à l'école quand elles sont dans leur période menstruelle. Donc pour ajouter, il y a aussi ce manque d'informations vraies et réelles sur ce que c'est que les règles. Et sur comment les gérer.
Oui, les croyances. Hein. Mais ceci dit, et puis il faut rajouter que comme on est à la période de l'adolescence, hein, ce qui nous intéresse, c'est l'incidence sur la scolarisation des filles. Quand les filles sont adolescentes, elles sont très fragiles, elles ne sont pas sûres d'elles. Donc la moindre moquerie sur les règles, forcément, ça va être surinterprété. Y compris dans un pays comme la France, où vous le disiez, deux tiers des filles disent que c'est toujours un tabou, qu'il y a des moqueries, qu'il y a des humiliations.
Oui, absolument. Et en fait, il y a très peu d'éducation à la santé menstruelle dans les écoles. On estime aujourd'hui que seulement 2 écoles sur 5 dispensent des informations et une éducation à la santé menstruelle. Donc, cela alimente le tabou et ça alimente aussi les préjugés. On considère toujours aujourd'hui que les règles sont sales, par exemple, alors que ce n'est physiologiquement absolument pas le cas, mais c'est considéré comme un problème d'hygiène. Et ce qui est important de dire là-dessous, c'est qu'en fait, on considère encore aujourd'hui que les règles, c'est un problème de filles. Et comme vous le disiez très bien, c'est d'abord et avant tout une question de santé publique.
Et de société.
Exactement. Et que c'est au niveau des politiques publiques qu'il faut favoriser l'accès à des protections menstruelles, l'accès à des infrastructures sanitaires, mais aussi l'accès à une éducation et une information sur les menstruations.
Et est-ce que les règles, par exemple, c'est quelque chose qui est abordé dans l'éducation sexuelle en SVT en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, l'éducation aux menstruations, les filles et les hommes le reçoivent à l'école dès la classe de 4e. Alors qu'il y a certaines filles qui ont leurs règles déjà au CM2, en 6e et 4e, c'est vraiment super tard. Et malheureusement, on n'a pas forcément, même dans l'éducation ici à la sexualité, on n'a pas d'éducation à la sexualité, des programmes en tout cas d'éducation à la sexualité à l'école en Côte d'Ivoire. On a plutôt un programme qui s'appelle l'éducation à la vie saine. Donc c'est très filtré. Il n'y a pas forcément un grand module sur les menstruations. On en parle dessus vite fait. C'est sur la leçon sur la puberté. Donc, on dit quand une jeune fille va être pubère, elle va avoir des poils et peut-être avoir ses menstruations. Mais il n'y a pas forcément de détails sur ce que c'est, sur les composants, sur comment les gérer. Donc, il n'y a pas forcément d'informations vraiment très détaillées et claires que les filles reçoivent à l'école concernant leur menstruation.
Pour revenir sur les facteurs aussi d'absentéisme scolaire du fait des menstruations, Lucie Dechiffre, qu'en est-il pour les pays en conflit ou en situation de crise? Est-ce que les règles accélèrent considérablement les inégalités et l'absentéisme scolaire des filles?
Oui, tout à fait. En fait, on voit que dans les situations de crise, il y a des difficultés supplémentaires d'accès à des protections menstruelles, à l'eau, à des structures sanitaires. Et donc, effectivement, ça accélère les inégalités, ça les augmente. Et c'est une vraie problématique pour des millions de femmes et d'adolescentes. Ça a tendance à multiplier les facteurs d'exclusion et aussi de ce fait la déscolarisation et également le risque d'être marié de force ou précocement. Donc effectivement il y a des liens étroits et souvent ce n'est pas une priorité à nouveau hein, parce que l'idée qui prévaut c'est de dire que les règles c'est un problème de filles alors que c'est un problème de santé publique ou une question de santé publique et une question de société. Mais dans les crises, on a tendance à considérer que c'est un problème mineur, alors que dans les faits, effectivement, on le voit bien dans des contextes de crise, c'est un élément supplémentaire de fragilisation et qui empêche de mener une vie dans des conditions correctes.
Vous évoquiez les mariages précoces. Hein, à partir du moment où une fille a ses règles, effectivement, le mariage, c'est vu, perçu comme le meilleur moyen de la protéger d'agressions sexuelles hors mariage d'une certaine manière, puisqu'elle est déjà pubère. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu, le mariage précoce étant pourtant une agression sexuelle en tant que telle.
Oui, absolument. Et l'élément supplémentaire, c'est qu'on considère qu'elle est en âge de procréer, ce qui est physiologiquement faux. Une fille qui a ses règles à 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, n'est pas encore prête à recevoir une grossesse. On voit beaucoup de cas de femmes d'adolescentes et de jeunes femmes qui tombent enceintes précocement et qui ont des complications majeures. En plus du fait, évidemment, que le mariage précoce et forcé est une atteinte à leurs droits.
Oui, donc on a le sentiment que absentéisme scolaire à cause des règles, l'absentéisme scolaire tous les mois, finit par déboucher sur un mariage précoce et une exclusion totale et définitive de l'école. C'est un peu ça le chemin, en fait, dans certains pays.
Oui, c'est le risque, effectivement, tout à fait. Après.
Vous nous appelez, les voisines et les voisins, au 33 7 64 45 51. On parle donc de ces facteurs de déscolarisation, du fait des règles qui surviennent tous les mois pour les filles. 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole chez 8 milliards.
8 milliards de voisins.
Pour séparer.
C'est une émission pour tous les voisins et tous les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Et nous accueillons une auditrice, Félicia, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Félicia.
Bonjour Emmanuel.
Félicia, votre témoignage est très intéressant parce que vous êtes une ancienne surveillante générale dans un lycée privé à Dakar où vous avez exercé pendant 7 ans. Oui. Et vous avez eu la latitude, la possibilité de mettre en œuvre certaines choses pour limiter l'absentéisme scolaire des filles du fait de leurs menstrues.
Effectivement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, j'étais dans un lycée privé. Ayant remarqué quand même qu'il y avait beaucoup d'absentéisme, j'ai mis en place un système. Alors, je vous donnais un peu de cours de morale parce que j'ai eu à fréquenter une école privée, catholique.
Oui.
Et on avait beaucoup de leçons de morale, ce qui n'est pas maintenant dans nos écoles.
Oui.
Donc, je leur parlais de temps en temps. Mm-hmm. Mais ayant vu qu'à chaque fois, madame, je dois rentrer parce que j'ai mes règles, je dis non. Vous restez à l'école et on a pu m'aider quand même avec la direction. Mm-hmm. Chaque mois, j'avais un quota de tampons et de serviettes hygiéniques. Pour leur permettre que quand ça arrivait, parce qu'à un certain âge, ça ne prenait pas en compte le fait que c'est du 27 au 27 ou du truc, les dates.
Eh oui.
Donc j'avais toujours quelque chose de prêt. Madame, j'ai mes règles, je dois rentrer. Je dis non, attendez. T'as pas de tampon avec toi? On me dit non. La serviette, non. Je dis voilà, une serviette. Allez vous protéger.
Donc ça, c'était financé par l'école, hein, c'est ça?
C'est financé par l'école, oui. C'était financé par l'école. Les serviettes sont là. Je me permettais même, Emmanuel, d'acheter des slips.
Oui.
De ma poche, hein, oui. Pour leur demander de se changer. Puisque c'est une école où on avait aussi des tenues.
Oui.
Après distribution, il m'en restait quelques-uns. Je les récupérais. Mm-hmm. Madame, je suis tachée. Je dis, tiens, il y a un pantalon ou il y a une jupe. Va te changer et demain, tu me le ramèneras tout propre.
Oui. Et ça, c'est hyper important pour la confiance en soi pour des jeunes filles. Hein.
Effectivement. Très important parce que c'était de femme à femme, vous savez. Et après, madame, j'ai trop mal, je donnais du thé. J'ai toujours aussi du thé bien chaud que je leur donnais. Je me permettais de temps en temps d'y associer un petit paracétamol. Et puisque j'avais un petit lit au cas où il y avait des enfants qui étaient malades, je les laissais, quand la douleur s'apaisait, de leur permettre de s'assoupir un tout petit peu et de reprendre après les cours.
Donc, votre bureau, c'était vraiment une oasis pour les filles lorsqu'elles avaient leurs règles, hein, si je comprends bien, Félicia.
Effectivement, oui. Ouais. Ah oui.
Et vous avez vu une différence une fois que vous êtes parvenue à mettre en place toutes ces mesures que vous avez si bien décrites. Est-ce que vous avez vu une différence sur l'absentéisme des filles?
Énorme. Énorme, alors. Parce que je puis dire, avec même les parents, je leur parlais après, j'ai votre fille a eu ceci ou cela, je me suis permise de lui donner une serviette hygiénique, de changer son pantalon ou son slip. Les parents étaient très coopérants. Mm. Ouais, ça coopérait. Et les enfants, les filles restaient à l'école, personne ne partait. Surtout après avoir assoupli légèrement, parce qu'avec la douleur parfois, un petit calmant, on s'assoupit. Et après, ça passe.
C'est ça. Et donc, ça permettait de ne louper qu'une seule heure de cours, par exemple, au lieu de, une journée, deux jours ou trois jours.
Et
dans ce lycée privé, il y avait déjà la base, c'est-à-dire des toilettes séparées et de l'accès à l'eau.
Oui, des toilettes séparées, accès à l'eau, il y a tout ce qu'il fallait vraiment.
Et malgré tout, il y avait quand même pas mal d'absentéisme scolaire avant ces mesures, hein, si je comprends bien,
Félicia.
Avant,
bien avant que je n'arrive.
Je crois énormément. Que vous abordiez aussi la question de ces flux naturels, hein, de ce que sont les règles aussi. Vous en parliez avec les filles?
Oui, je leur en parle. Voilà, parce que pour les élèves qui viennent d'arriver, par exemple, en sixième, et que ça les arrive juste... Et elles sont au lycée. Donc là, je joue le rôle de la maman. Je leur parle. Voilà.
Merci, merci.
Écoutez,
Félicia.
Merci à cela.
Merci beaucoup de nous avoir appelés et d'avoir détaillé ces moyens qui sont à la fois des moyens très simples, hein, Amandine Yao, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique et financière de l'établissement.
Ouais, effectivement. Ouais,
Amandine Yao, vous voulez réagir, Amandine Yao, avec l'association Goutte Rouge basée à Abidjan?
Oui, avec l'association Goutte Rouge, on a mis en place des clubs de discussion dans deux lycées à Abidjan pour libérer la parole sur les menstruations. Donc, on se voit avec une cinquantaine de jeunes filles chaque mercredi pour discuter de la question des menstruations. Et la question des menstruations, très souvent, ouvre la voie sur d'autres questions. Donc, toutes les questions qui concernent, en fait, l'aspect, comme on dit, privé des jeunes filles, on en parle ensemble et ça a permis vraiment de donner confiance à ces jeunes filles-là parce que quand on retourne en arrière, il y a 3 ans en arrière, et c'est ces jeunes filles qu'on accompagnait depuis, elles ont un autre discours sur les menstruations.
C'est un sujet qu'elles abordent beaucoup plus facilement. Mais est-ce que, par exemple, il y a des garçons qui sont inclus dans ces palabres ou pas du tout?
Non, pas du tout. Les garçons sont inclus dans un autre programme qu'on appelle Camp Rouge. Et très souvent, quand on a les discussions ouvertes à tout le monde, quand les parents participent, il y a des garçons aussi qui participent. Sinon, les clubs sont vraiment un endroit non mixte où tout le monde peut, où toutes les filles se sentent libres de parler ouvertement. Et je pense que ça a créé un esprit presque de sororité entre les filles. Les filles, en tout cas pour celles qui ont les moyens d'avoir des menstruations, d'avoir des protections, vont à l'école maintenant avec 2-3 protections sur elles au cas où une de leurs sœurs en a besoin.
Pour pouvoir en prêter. Ouais.
Donc, voilà,
une
le
belle
fait
solidarité féminine. C'est intéressant, Lucie, de chiffre la façon d'organiser à la fois des clubs entre filles où là la parole se libère vraiment entre filles et on peut aborder des questions très intimes et puis d'autres moments où les garçons sont inclus dans la discussion.
Exactement, à plan international on pratique aussi ce type d'action, donc des clubs ou des espaces d'échange entre filles pour qu'elles puissent partager leurs expériences, leurs doutes, leurs solutions aussi. Et qui permet vraiment d'aborder ces questions sans tabou, en tout cas moins, mais aussi des espaces où les garçons sont inclus aux discussions pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité des règles et aussi lutter contre les tabous. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire en sorte que les jeunes, filles et garçons, participent aussi aux actions de sensibilisation. Donc c'est ce qu'on fait par exemple dans un programme en Tanzanie qui a plusieurs volets d'accès à la santé menstruelle, et on associe garçons et filles pour mener des sensibilisations. Ce qui est intéressant aussi, et le témoignage de l'auditrice le montrait très bien, c'est que c'est aussi une façon de sensibiliser l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit les professeurs, que ce soit les directions, que ce soit aussi les parents d'élèves et la communauté en général. Donc c'est vraiment voilà, sur un sujet qui, a priori, est très tabou, peut être parfois sensible, en fait, on arrive au fur et à mesure à en parler et en faire un vrai sujet de société.
Ouais, c'est ça. Félicia nous le disait, elle avait un quota, effectivement, de protection hygiénique, donc c'était budgété chaque mois. Merci d'ailleurs pour l'appel de Félicia. Vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins
et de voisines.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
8 milliards de voisins.
Et nous sommes en ligne avec un voisin à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour RFI, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Vous nous appelez régulièrement sur des sujets éducation parce que vous êtes directeur d'école à Nouakchott. Vous êtes toujours, votre école privée est toujours située Carrefour Bamako, c'est ça?
Tout à fait, nous sommes ici au Carrefour Bamako, au PK 11 à Nouakchott.
C'est ça. Alors, c'est étonnant d'entendre un directeur d'école qui nous appelle pour nous parler de ce que vous faites, des discussions que vous mettez en œuvre pour parler des menstruations. Comment vous gérez le problème pour les filles et est-ce que vous observez de l'absentéisme scolaire chez les filles?
Oui, au début, il y avait beaucoup d'absentéisme et ça ne s'expliquait pas. Et de fil en aiguille, j'ai appris que les filles qui s'absentaient, c'était parce qu'elles avaient leurs règles une fois par mois. Donc, puisque c'est dans notre programme de CM2, parfois, et j'ai été enseignant en CM2 au début de l'école, on abordait ça et on essayait de parler des règles et que c'est quelque chose dont on doit parler pour que chacun sache que c'est naturel. Au début, les filles, elles ne pouvaient pas supporter que quelqu'un en parle devant tout le monde.
Oui.
C'était un peu difficile, mais...
Parce que là, c'était devant toute la classe, y compris les garçons, donc.
Oui, devant les garçons. D'autant plus que nous sommes un pays très religieux, et parfois, on a tendance à mélanger ce qui est social, ce qui est religieux. Et je leur dis que l'islam n'interdit pas de parler de sexualité devant tout le monde. Donc, les filles ont commencé à trouver une oreille qui les écoute. Parfois, elles sont absentes. Elles n'ont pas mal du tout, mais elles ne veulent pas venir à l'école et avoir à se changer pendant les classes. Et donc, je leur ai dit que c'est tout à fait naturel, que c'est normal. Et les garçons qui avaient tendance à se moquer d'elles au début, au fur et à mesure, nous avons démystifié cela. Nous en parlons et... Je leur souffre même que nous sommes des privilégiés, que ce sont nous qui devons alerter les autres membres de la société, leur dire que tout le monde passe par là et qu'on peut en parler. Parfois, il y a des filles qui sont vraiment malades. Donc, j'achète un médicament qu'on appelle Antadis, qu'elles emploient et parfois ça va mieux. Et nous avons une plante que vous connaissez, le Moringa, qui lutte contre...
Oui.
L'anémie parfois, donc on fait des infusions de moringa pour les filles comme ça, pour éviter les anémies. Et pour le moment, ça va. On en parle très, très régulièrement. Il y a même eu un exposé des filles qui ont pris l'initiative de faire un exposé, appeler tous les grands élèves et leur parler des choses qui ne concernent que les femmes et surtout des règles. Et comment gérer ça, comment en parler subtilement, sans trop bousculer aussi les croyances. Et ça va pour le moment.
Ça va pour le moment. Qu'est-ce que vous observez avec les nouvelles élèves qui arrivent dans votre école, Bouna?
Alors là, elles tombent des nues. Comment peut-on parler de la sexualité, des règles, avec quelqu'un qui est aussi grand que moi, j'ai 60 ans, surtout devant toute la classe d'une trentaine d'élèves? Souvent, elles réagissent d'une manière extraordinaire. Mais comment peut-on en parler? Et même parfois, j'ai la remarque d'une maman qui me reproche ça. Et elle a été plus tard ma meilleure porte-parole parce que je lui ai dit que rien ne nous empêche et que nous sommes là pour éduquer nos enfants et que ça ne peut pas se passer avec des cachotteries comme ça. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de sale. On doit en parler et on doit prendre ça en charge ensemble.
Ça veut dire que les parents, aujourd'hui, les parents d'élèves acceptent qu'il y ait débat, qu'il y ait discussion sur un sujet aussi tabou que les règles, parce que l'objectif chez vous, c'est que les filles ne manquent plus l'école.
Exactement, c'est exactement ça. Même si elles sont malades, même si elles sentent des douleurs, elles me demandent les médicaments et je leur donne. Et les copines et les copains savent que de quoi elles souffrent. Et même parfois, il y a l'une de ses copines qui parle à sa place, ou bien un ami, il y a un garçon qui vient me dire tel élève, elle ne voudrait pas venir te parler de sa souffrance. Est-ce que tu peux lui trouver le médicament que tu donnes aux filles?
Est-ce que vous avez aussi des protections hygiéniques gratuites dans votre école ou pas, Bouna?
J'en ai déjà acheté. Et souvent, pour ça, c'est madame qui s'en occupe.
Votre épouse.
C'est madame qui... D'accord. Oui, c'est
merci,
elle est
merci Bouna.
Bureau,
merci, je suis désolée. L'émission passe trop vite, mais merci pour votre témoignage. Un directeur d'école qui est quand même sacrément positionné sur le sujet, on voit les effets. Merci, très belle journée à vous, à Nouakchott. Peut-être Lucie de Chiffre, qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage? C'est bien une affaire d'homme aussi, donc.
Hein. Oui, absolument.
Solidarité entre élèves quand un garçon vient signaler une fille qui se sent mal.
Oui, on voit ces actions en fait favorisent un changement auprès des garçons comme des filles et vraiment des changements de comportement relativement rapidement finalement si on en fait une priorité. Ça c'est vraiment un élément intéressant. Un autre élément que nous on favorise, c'est la formation de femmes notamment et de jeunes femmes à la production de protection menstruelle,
ouais, pour faire baisser le coût. Hein.
Exactement, parce que le coût reste vraiment une barrière à l'accès.
Et là, ce sont des protections hygiéniques lavables?
Réutilisables, absolument, tout à fait.
Ceci dit, alors Amandine Yao, sur les protections réutilisables, vous le disiez, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, en fait, pour les élèves, le plus important, c'est surtout que personne ne sache qu'elles ont leurs règles. Donc, quand on lave les protections et qu'il faut les faire sécher dans une cour commune, c'est un problème, non?
C'est un gros problème. Alors, au niveau des protections lavables, nous, nous collaborons avec aussi une entreprise qui en produit. Mais quand nous allons vers les filles, nous présentons la protection avec ses avantages et ses inconvénients. Parce qu'il faut dire en fait que la protection lavable n'est pas adaptée à toutes les filles, vu que dans certaines contrées, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas... En ce moment, à Abidjan, il pleut énormément. Donc, ce n'est pas adapté en ce moment, vu qu'il n'y a pas de soleil pour sécher la protection. Donc, voilà. Donc, nous présentons les inconvénients et nous présentons aussi les avantages de la protection. Nous partons, en fait, avec une éducation complète sur tout ce qui est protection. Donc, en parlant des serviettes jetables, du tampon, de la coupe menstruelle, mais aussi de cette protection-là. Et ce que nous faisons, nous, en tant qu'association, c'est vraiment de pouvoir collecter des fonds de sorte à pouvoir mettre à disposition des protections adaptées, des protections que les filles auront choisies. Et nous avons fait un test dans la commune de Marcory où nous travaillons directement avec une pharmacie. Donc, les filles à Marcory nous ont dit qu'elles voulaient utiliser des protections jetables. Donc, nous mettons à disposition d'une des pharmacies des protections jetables chaque fin du mois et elles passent dans cette pharmacie-là récupérer. Il y a vraiment un manque d'informations, je dirais, sur la typologie des protections elles-mêmes et les avantages et les inconvénients et l'utilisation de ces protections. Donc, ce que nous faisons, c'est beaucoup d'éducation sur comment utiliser les protections, sur comment choisir sa protection adaptée pour nous en fonction de notre contexte. Et nous menons des activités pour que les filles elles-mêmes, comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, puissent en fait... prendre des initiatives, enfin faire naître des initiatives dans leur contexte. Ouais,
mais sur un plan plus politique, Amandine Yao, vous, en tant que fondatrice de l'association Goutte Rouge, qu'est-ce que vous attendez des autorités en Côte d'Ivoire?
Ce que nous attendons des autorités en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est de considérer la question des menstruations comme une question de santé publique, de problèmes de société.
Plus concrètement,
on le voit.
Vous souhaiteriez une mise à disposition, comme dans certains pays, comme le Ghana, je crois, de protection hygiénique gratuite?
Nous sommes sur un plaidoyer pour que les toilettes déjà dans des établissements publics soient rénovées ou soient construites tout simplement. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de toilettes est ce qui est revenu énormément dans les questions que nous avons pu poser aux jeunes filles. Donc l'action première que nous voulons que les autorités posent en Côte d'Ivoire, c'est de prendre en compte l'accès aux toilettes propres et adaptées aux jeunes filles, que ce soit dans les écoles primaires, dans les lycées et même dans les universités.
Lucie De Chiffre, directrice des programmes de l'ONG Plan International, qu'est-ce que vous demandez très concrètement par rapport à certains pays qui sont plus en avance que d'autres? Aujourd'hui, sur quoi portent vos revendications?
Donc nous, ce qu'on demande, c'est déjà que la santé menstruelle soit inclue dans les politiques publiques de santé et reconnue comme une part entière de ces politiques de santé, mais aussi des politiques éducatives. Donc on demande effectivement à ce qu'il y ait un accès à des infrastructures sanitaires, comme le disait Amandine, mais aussi à des protections menstruelles sous les différentes formes qu'elles peuvent prendre selon les contextes. Et c'est effectivement ce qu'on demande dans la plupart des pays dans lesquels on intervient. Et on demande aussi à ce que les actions de sensibilisation que font des organisations telles que la Goutte Rouge, tel que Plan International, fasse vraiment partie de l'éducation et des politiques éducatives. C'est un volet extrêmement important, on l'a vu pendant nos discussions.
Merci à toutes les deux, Lucie De Chiffre, directrice des programmes et des partenariats stratégiques au sein de l'ONG Plan International. Et merci à vous, Amandine Diao, d'avoir été en ligne avec nous, fondatrice, présidente de l'association Goutte Rouge à Abidjan. Merci à toutes les deux. À suivre un parent, une question et des conseils clairs du psychologue Ibrahima Giroud. Mais tout de suite, un petit reggae du matin avec trois générations d'artistes. Grondation, Mika Rose et Alpha Blondie en playlist RFI.
I do.
milliards de voisins sur RFI. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast. Maintenant, c'est le moment venu, un parent, une question, avec les conseils du psychologue Ibrahima Girou qui répond à toutes vos questions concernant vos enfants ou vos élèves.
Bonjour, 8 milliards de voisins. Je suis Négor, tchadien à Yaoundé depuis 5 ans. Mon fils de 12 ans est resté de l'âge de 3 ans à 11 ans avec son grand-père au village. Et aujourd'hui, il vit avec mon frère, son petit frère de 10 ans, à N'Djamena. Mais mon fils aîné a été mal suivi scolairement. Il est en classe de CE2 et ne sait pas lire, alors que son frère de 10 ans est en 6e au collège. Question. Je me pose de le faire revenir à Yaoundé, de lui faire recommencer dès la classe de CE2 dans une école bilingue français-anglais. Mais je me demande, quelles peuvent être les conséquences psychologiques?
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour Négor. En fait, Monsieur Négor, il ne faudrait pas compliquer la situation et vous avez raison. L'éducation est un soin, donc l'éducation ne doit pas faire souffrir. Si vous ramenez votre enfant en classe de CE2, s'il n'en souffre pas, il n'y a pas de problème parce qu'il ne faut pas considérer qu'il est en retard. Voyez-vous, la vie est beaucoup plus grande que l'école. Maintenant, s'il doit souffrir d'être en classe de CE2 à son âge, ça veut dire que non seulement il risque de ne pas se développer, de s'épanouir à l'école, mais il risque véritablement d'avoir des problèmes beaucoup plus importants sur l'image de soi, sur sa personnalité, la confiance en soi. Vous voyez, et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Qu'on aille à l'école, qu'on n'aille pas à l'école, qu'on soit, vous voyez, PDG, qu'on soit simple employé ou, vous voyez, main d'œuvre quelque part, ce qui compte, c'est surtout le regard que l'on pose sur soi. C'est l'image de soi, la confiance en soi, le sentiment d'être quelqu'un qui a de la valeur. Et ce n'est pas l'école qui donne à une personne la valeur qu'il a. Vous voyez, la valeur que nous avons, elle dépend beaucoup de notre moralité. Elle dépend beaucoup de notre engagement, de notre persévérance, de notre capacité d'endurance, de notre résilience. C'est ça qui est important. Donc, si votre enfant ne souffrirait pas de venir, voyez, reprendre à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais surtout, le message que vous devez lui donner, c'est que ce qui compte, c'est la confiance qu'il va avoir en lui, y compris s'il doit aller faire autre chose. Il peut apprendre des métiers, il peut aller apprendre autre chose. Ne faites pas comme si les choses s'arrêtent à l'école.
Ibrahima Girou, professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et psychologue. Il répond, vous le savez, à toutes vos questions, les voisins et les voisines, si vous rencontrez des difficultés avec vos enfants, ceux dont vous avez la charge, ou encore vos élèves aussi si vous êtes enseignant. Le psy répond même aux questions des grands frères et des grandes sœurs chaque semaine. Donc 33 7 64 45 51 41, c'est le compte WhatsApp pour poster vos messages. Et puis merci à l'équipe, Juliette Delphine Cachin, Diego Tenorio, Pauline Berthélémy, Thibaut Mata. Vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp Channel. Tiens, d'ailleurs, on a posté une vidéo avec des conseils pour gérer ses mots de passe informatiques. Je vous le rappelle, on a consacré toute une émission à ce sujet il y a quelques temps, les mots de passe informatiques. C'est un vrai problème, pas seulement quand on les oublie, mais quand effectivement ils sont piratés. Vous retrouvez cette émission notamment sur RFI.fr à la page des 8 milliards de voisins. Demain, 8 milliards de voisins, Laurence Garcia présentera l'émission « Comment intéresser les hommes à l'égalité femmes-hommes ». C'est pas forcément gagné, mais si vous avez des idées, un témoignage, appelez-nous 33 7 64 45 51 41. Vous le savez, c'est vous aussi les voisins et les voisines qui faites l'émission chaque jour du lundi au vendredi. Dans quelques instants, le journal sur RFI. 8